Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Où Jésus dit, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Puissions-nous avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit veut nous communiquer aujourd'hui, c'est ma prière. Bonjour à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous chantons, nous louons le Seigneur, nous acclamons son saint nom, mais nos paroles sont-elles empreintes de ce désir de la délivrance éternelle? Notre maison est-elle placée, nos richesses, notre richesse, notre abondance est-elle placée et établie dans le ciel, là où se trouve celui que nous aimons? Il y a ce magnifique cantique qui dit « Ici-bas, toute espérance cache derrière elle un deuil, toute joie, une souffrance et toute vertu, l'orgueil. Mais au ciel, bonheur suprême, au ciel, plus d'espoir déçu, je verrai le Dieu que j'aime et ne l'offenserai plus. » C'est une espérance chrétienne. C'est l'espérance que le chrétien a en lui et qui bat au-dedans du chrétien pour lui donner la force de continuer. Mais quand je verrai le Dieu que j'aime, est-ce le seul moment où je ne l'offenserai plus? Nous croyons à la lumière de la parole de Dieu que c'est en ne l'offensant plus ici-bas que nous pourrons entrer là, au ciel, où se trouve le bonheur suprême. Voyez, ces cantiques, ils sont magnifiques, mais puissions-nous exprimer la nature magnifique que ces cantiques sont censés refléter? C'est tout le dessein de ces paroles mises en mélodie, de pouvoir nous donner l'opportunité d'exprimer ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous, ou de pouvoir nous émouvoir et nous provoquer à l'amour de Dieu pour lui-même. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, dans la continuité de ce que nous avions vu les dernières fois, je veux vous rappeler que nous voulons bâtir l'édifice de notre vie sur Jésus-Christ, qui, nous avions vu, est la pierre angulaire du fondement des apôtres et des prophètes. Nous voulons, comme le sarment greffé sur le cep, tirer toute notre vie, notre joie, et tous nos désirs sanctifiés de lui qui est la source de la vie. Mais cela ne suffit pas que ça soit notre désir, notre projet personnel et commun en Jésus-Christ, dans notre effort et notre désir intense de l'aimer et de lui être fidèle, nous avons besoin d'être mus par la pensée qui est contenue dans le passage suivant, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 14. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 14. Et ce passage, vous allez le voir directement, il a à voir avec notre manière de fonctionner à l'intérieur de nous. Et la manière de fonctionner et de réfléchir et de penser à l'intérieur de Dieu. Ici, nous lisons au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme que Dieu avait préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons, disait l'apôtre Paul, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Et maintenant nous vient les paroles déterminantes qui jettent la lumière sur ce que nous venons de lire juste là, maintenant au verset 14. Or l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce passage est lourd de sens, mais j'aimerais que l'on puisse, par l'aide de l'Esprit, nous attarder tout particulièrement sur les choses qui nous concernent très sérieusement aujourd'hui face aux choses auxquelles nous sommes confrontés. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que l'Esprit de Dieu nous fait connaître les choses de Dieu. Les choses qui étaient cachées à l'homme, que l'oreille n'avait point entendues, qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, Dieu nous les révèle par son esprit, parce que l'esprit, il sonde les profondeurs de ce qu'il y a dans la pensée de Dieu. Un peu comme une personne qui est un très 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 bon ami, et il vous connaît tellement qu'il est capable d'exprimer les choses qui vous meuvent, qui animent votre pensée et qui régissent la manière dont vous réfléchissez et dont vous méditez. Ici, Dieu nous dit dans la parole que l'Esprit de Dieu est cette personne-là qui révèle, qui sonde toutes choses, à savoir les profondeurs de Dieu. Les choses qui sont toutes à l'intérieur de Dieu que nul ne peut lire, l'Esprit les lit parce qu'il est dans un tel accord avec Dieu, avec le Père et le Fils, qu'il peut parfaitement exprimer la pensée de Dieu, parce qu'il y a une telle harmonie, un tel accord, que ce qu'il dira, c'est exactement ce que le Père et le Fils diraient. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Et ça fonctionne de la même manière que notre esprit intelligent est la seule entité à l'intérieur de nous qui puisse sonder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. À la différence que notre esprit n'est pas séparé de qui nous sommes. Comme c'est écrit à la Genèse, quand l'homme a insufflé dans le corps inanimé de l'homme son esprit vivant, l'homme est devenu une âme vivante. Donc notre esprit, notre intelligence, notre âme, notre corps, tout cela est indivisible, indissociable. Mais, quoique Dieu y présente ici une comparaison, l'esprit de Dieu n'est pas ainsi. Mais, toutefois, il est tellement en harmonie avec le Père qu'il est comme notre esprit est à notre intelligence et à notre âme. C'est ça le sens profond et merveilleux de ce passage-là. Mais il y a un hic, et c'est que, comme nous le lisions au verset 14, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, donc les choses qui sont dans le cœur de Dieu et que l'Esprit veut communiquer à notre esprit intelligent, notre homme, l'homme animal, ou l'homme qui est selon la chair, l'homme charnel, l'homme naturel, il ne comprend pas ces choses-là que Dieu nous révèle par l'Esprit. Pourquoi ? Car elles lui semblent une folie et il ne peut les connaître. La parole nous dit, et en effet, il ne peut même pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, qu'on juge de ces choses de Dieu que l'Esprit de Dieu nous révèle. Et c'est ici un sujet extrêmement important parce que l'homme naturel, animal, charnel, c'est l'homme que nous rencontrons par défaut en nous-mêmes et en notre prochain sans arrêt. Et nous voulons nous concentrer tout particulièrement sur cet homme par défaut qui est le nôtre et auquel nous nous retrouverons souvent confrontés vis-à-vis des choses que Dieu essaye de nous communiquer aujourd'hui et en ces derniers jours. Les choses de l'Esprit de Dieu, l'homme animal ne les comprend pas et elles sont pour lui une folie. Et j'aimerais tout de suite, sans plus tarder, employer l'esprit de prophétie pour élargir cette déclaration, et nous voulons pour cela lire dans Message choisi, volume 1, page 18, paragraphe 1, pour commencer. Voilà ce qui est écrit. il y en a certains qui s'efforcent d'être originaux, qui sont sages au-delà de ce qui est écrit et dont la sagesse n'est par conséquent que folie. Donc qu'est-ce que nous avons lu ? La sagesse de Dieu, que l'Esprit de Dieu veut nous révéler, elle nous semble à l'homme charnel une folie. Et lorsque nous voulons être sages au-delà de ce qui est écrit, notre sagesse n'est elle-même que folie. Je continue. Ils se croient les premiers à découvrir des choses merveilleuses, alors que leurs idées révèlent qu'ils sont bien en retard en ce qui touche la compréhension de la volonté de Dieu et des desseins de Dieu. En s'efforçant d'expliquer ou de dévoiler des mystères cachés de tout temps aux yeux des mortels, ils ressemblent à celui qui se débattrait dans la boue, incapable de s'en dégager, mais prétendant montrer à d'autres comment se sortir de l'océan bourbeux où ils se trouvent eux-mêmes. On peut voir là l'image appropriée de ceux qui s'érigent en censeurs pour corriger les erreurs de la Bible. Personne ne peut améliorer la Bible en suggérant ce que le Seigneur a voulu dire ou ce qu'il aurait dû dire. Est-ce que vous voyez un peu cet homme animal charnel qui fonctionne ici? L'esprit de prophétie nous dit que il s'érige en censeur pour corriger les erreurs de la Bible. Parce que les choses de Dieu que l'Esprit leur révèle sont une folie pour eux. Et donc, ils disent que ce sont des erreurs. Et ils s'érigent en censeur de ces erreurs qu'ils croient discerner dans la Bible. Mais c'est pas simplement ça. Ça va plus loin et c'est plus subtil encore. Parce que l'esprit de prophétie nous dit, personne ne peut améliorer la Bible en suggérant ce que le Seigneur a voulu dire ou ce qu'il aurait dû dire. Est-ce que vous voyez le sens là qui nous est présenté? Parce que nous venons à la parole de Dieu où l'esprit de Dieu est en train de nous parler et de nous révéler les choses qu'ils sont dans les profondeurs de Dieu, mais nous disons que le Seigneur a voulu dire ceci, il a voulu dire cela, il a voulu dire quelque chose d'autre que ce qui est écrit. Et nous faisons sages au-delà de ce qui est écrit. C'est le danger que nous permettions, sans peut-être le discerner, de laisser notre homme animal fonctionner. Que nous permettions à notre animal de fonctionner à l'intérieur de nous. Je continue. Ceux qui s'imaginent pouvoir aplanir les difficultés qu'ils prêtent à l'écriture et qui voudraient distinguer entre ce qui est inspiré et ce qui ne l'est pas, d'après leur étalon humain, feraient mieux de se couvrir la face comme le fit Élie quand il entendit la voix douce et subtile. En effet, il se trouve en présence de Dieu et des saints anges qui, durant des siècles, ont communiqué aux hommes lumière et connaissance, leur enseignant ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, déployant devant eux des scènes palpitantes d'intérêt, jalon après jalon, par des symboles, des signes et des images. Vous voyez ce qu'il arrive quand nous faisons sage au-delà et au-dessus de ce qui est écrit? Nous prétendons savoir mieux que Dieu et les saints anges qui, pendant des siècles, ont eu cette charge de communiquer la vérité aux hommes. Et si c'est cela qui nous anime et que nous pensons que nous sommes appelés à aplanir les difficultés que nous croyons trouver dans l'Écriture, l'esprit de prophétie nous dit que nous ferions mieux de nous couvrir la face comme le fit Élie quand il entendit la douce et subtile voix de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, frères et sœurs, c'est comme un chevreuil. Vous feriez mieux de ne pas faire de bruit ou il va s'enfuir. Et lorsque nous faisons tout un grand bruit de notre propre sagesse en essayant de dire ce que le Seigneur a voulu dire ou ce qu'il aurait dû dire, le chevreuil, il s'est précipité hors de notre vue et nous nous plaçons à un endroit où il ne nous parle plus. Et c'est pour cela que l'esprit de prophétie nous dit « Couvrez votre face lorsque vous placez vos pieds sur le sujet de l'inspiration de l'Écriture parce que vous êtes sur une terre sainte. » Et Ellen White, elle finit dans cet extrait par dire ceci. « Je prends la Bible telle qu'elle est, la parole inspirée. Je crois les déclarations contenues dans la Bible entière. » Telle qu'elle est. Prendre la parole telle qu'elle est, tel que c'est écrit. Nous sommes appelés à cela. Et donc nous avons besoin de réaliser que l'homme animal, charnel, naturel, ne peut comprendre les choses de Dieu et que seul l'homme spirituel peut les discerner et les accepter. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Si un homme ne naît d'en haut, ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, ne naît de soumission, de repentance et de l'Esprit de Dieu, par la réception de l'Esprit de Dieu, il ne peut voir et ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il était en train de dire à Nicodème, « Nicodème, marche très attentivement, couvre-toi la face, parce que le Saint-Esprit est comme un chevreuil. Il est comme une voix douce et subtile. Et si tu fais trop de bruit, tu n'entendras plus rien. » Et j'aimerais maintenant attirer votre attention sur un principe. En plus de notre méditation, ça se trouve dans le livre Spirit of Prophecy, volume 4, à la page 230 au paragraphe 1. Et là, c'est simplement pour élargir le sens de ce passage de 1 Corinthiens 2 et surtout le verset 14 que nous avions vu juste avant. Et ici, en parlant des enfants de ce monde, l'esprit de prophétie nous révèle un principe. Voilà ce qui est écrit. Les enfants de ce monde sont les enfants des ténèbres. Leur attention n'est pas dirigée vers le soleil de justice. Elle est centrée sur eux-mêmes et sur les trésors de la terre. Ils n'aiment pas et n'apprécient pas les choses divines parce qu'ils ne discernent pas leur valeur ni leur beauté. Ils se sont éloignés de la lumière de Dieu et leur intelligence se trouve dans une telle confusion en ce qui concerne ce qui est juste, vrai et saint, que les choses de l'Esprit de Dieu sont pour eux une folie. Ils se sont éloignés de la lumière de Dieu et en conséquence, de ne pas aimer et de ne pas apprécier les choses de Dieu, les choses divines que l'Esprit veut leur présenter. Qu'est-ce qui se passe? Leur intelligence se trouve dans une telle confusion en ce qui concerne ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est saint, que les choses de l'Esprit de Dieu sont pour eux une folie. Voyez le danger? Le danger, c'est que si nous agissons d'une telle manière à nous éloigner de la lumière de Dieu, si nous centrons notre attention sur nous-mêmes, sur les trésors de la terre, ce qui va se produire en réaction à l'intérieur de nous, c'est que nous nous mettrons à perdre notre goût et notre désir pour les choses divines et nous ne discernerons pas leur valeur et leur beauté et à cause de cela, notre intelligence, notre compréhension de Dieu sera plongée dans une telle confusion que les choses de l'Esprit de Dieu ne feront plus aucun sens et elles seront pour nous une folie. Vous voyez ce que cela veut dire? De se couvrir le visage devant Dieu à l'ouïe de sa parole douce et subtile, de sa voix douce et subtile. C'est faire attention de ne pas nous laisser étouffer par les ronces que Jésus avait exprimées dans sa parabole du semeur. Que nous fassions bien attention à ne pas permettre que la parole qui est semée en nos cœurs par la prédication ne soit pas étouffée par les plaisirs de ce monde, les soucis de ce monde et toutes les distractions de ce monde. Parce que en faisant ça, la voix de l'Esprit de Dieu même, nous deviendra étrangère. Est folle pour nous, à notre ouïe naturelle. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut être éclairés par le Seigneur et délivrés du brouillard de notre intelligence qui nous empêche d'apprécier et de recevoir les choses que Dieu nous a révélées. Nous avons besoin que notre intelligence soit dépouillée de ce brouillard, de cette mystification des réalités de Dieu et que lui-même, le Seigneur, nous illumine pour que l'on puisse recevoir et apprécier les choses qu'il nous communique. Pour cela, j'aimerais qu'on se tourne dans le passage de Jean chapitre 12, Jean chapitre 12 au verset 31 et 32. Et Jésus disait ici, maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Il était en train de prédire ce qui allait lui arriver au verset 32, il disait, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et au verset 33, la parole nous donne une explication pour que l'on ne soit pas confus vis-à-vis de ce qu'il vient de dire. Or, il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est-à-dire que Jésus, à travers cette activité de la croix, il attirerait tous les hommes à lui. Mais comment est-ce qu'il pourrait attirer les hommes à lui quand il ne serait plus là? C'est ça tout le dilemme vers lequel j'aimerais attirer votre attention dans cette méditation aujourd'hui. J'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes. Le texte original, il dit « j'attirerai tous à moi ». Tous, sans exception. Ceux qui ont vécu avant lui et ceux qui ont vécu après lui, lorsqu'il est monté au ciel, comment est-ce qu'il attirerait tous les hommes à lui ? C'est important que l'on comprenne vraiment les tenants et aboutissants de la parole de Dieu pour qu'on puisse comprendre l'application personnelle de ces choses dans d'une manière réelle et tangible. Parce que nous avons besoin de trouver un sauveur en Jésus qui est réel, concret et tangible et qui puisse nous garder de ce monde, des péchés de notre nature pécheresse, des tentations du diable et des attraits du monde trompeur. J'aimerais pour cela utiliser encore une fois l'esprit de prophétie qui va orienter notre méditation une fois de plus. Ça se trouve dans « Message à la jeunesse », à la page 135, paragraphe 2, jusqu'à la page 136, paragraphe 1. Voilà ce qui est écrit. Jésus-Christ s'est saisi de l'humanité pour pouvoir de son bras humain étreindre la race humaine, tout en entourant de son bras divin le trône de l'infini. Il a dressé sa croix à mi-chemin entre la terre et le ciel, en disant, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et là, il y a cette phrase vraiment importante où est écrit « La croix devait être le grand pôle d'attraction ». Vous voyez le sens des paroles de Jésus ? « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » La croix deviendrait, par son sacrifice, le grand pôle d'attraction pour l'homme pécheur, pour l'humanité sur la terre et pour l'univers tout entier, un spectacle de l'amour de Dieu. Ça continue. Cette croix devait parler à tous les hommes et les attirer et leur faire franchir le fossé creusé par le péché pour unir ainsi l'homme fini au Dieu infini. Seul le pouvoir de la croix peut arracher l'homme aux puissances liguées du péché Christ s'est donné pour sauver le pécheur. Donc nous avons ici le but, l'activité que Jésus il exprimait dans Jean, par laquelle il a dit qu'il attirerait tous les hommes à lui. Il nous attire par ce pôle d'attraction. Il parle à l'homme. Il l'attire pour le faire franchir le fossé qui a été creusé par le péché. Pour que nous puissions être réconciliés, l'homme fini au Dieu infini. Et donc la question qui se pose à nous, c'est comment est-ce que la croix deviendrait le pôle d'attraction pour tous les hommes? Dans Jean chapitre 16, en commençant par le verset 7, Jésus, il répondait lui-même à la question qui était suscitée par cette déclaration que nous avons lue dans Jean 12. Parce que les disciples, ils ressentaient la tristesse quand Jésus leur disait qu'il allait devoir les quitter. Nous allons voir d'ailleurs pourquoi ils ressentaient une telle tristesse, mais ici, il s'adressait à cette tristesse qui les animait lorsqu'il leur révélait les choses qu'il allait lui arriver. Et il disait ici, Jean 16, verset 7, « Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Verset 13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, « C'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce que Jésus a déclaré de ce Consolateur qu'il enverrait? Quelle est la mission telle qu'il l'a décrite, telle que Jésus l'a décrite? Il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Vous voyez le lien avec le passage de 1 Corinthiens chapitre 2? Il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est l'Esprit de Dieu, il sonde les profondeurs de la pensée de Dieu et il entend les choses qui se passent dans le cœur de Dieu parce qu'il est en tel accord et communion avec le Père qu'il révèle tout cela d'une manière absolument parfaite et sans erreur. Et Jésus disait, c'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus, il avait dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Comment il ferait cela? Comment il attirerait les hommes à lui? Il le dit ici. C'est lui, l'Esprit de vérité, l'autre Consolateur qui me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il prendra ce qu'il a entendu de moi, il prendra ce qu'il sait de moi et il vous l'annoncera. Donc nous avons trois points à prendre en compte. Jésus nous a dit que l'Esprit qui nous enverrait nous conduira dans toute la vérité, que l'Esprit ne parlera point par lui-même, mais qu'il glorifiera Jésus, la croix. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez, c'est exactement ce qui est écrit. Je viens simplement de faire un résumé de ce que nous venons de lire. Et maintenant, pour élargir encore ces paroles, ce passage, nous voulons nous tourner vers le livre Conquérant Pacifique, à la page 47, au paragraphe 2 et 3. Voilà ce que l'esprit de prophétie nous révèle. Le rôle du Saint-Esprit est clairement défini dans ces paroles de Christ. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Si le pécheur se laisse toucher par l'influence vivifiante de l'Esprit, il sera amené à la repentance et il comprendra l'importance d'obéir aux ordres divins. Donc qu'est-ce que l'Esprit ? Que fait l'Esprit ? C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Vous avez là une activité très personnelle, une activité très intelligente. Et si nous répondons, si nous nous laissons influencer, nous les laissons toucher par l'influence vivifiante de l'Esprit, nous serons amenés à la repentance et à comprendre l'importance pour nous d'obéir aux ordres divins. Voilà ce que produira l'Esprit dans notre vie, l'influence vivifiante de l'Esprit. Il va nous parler, il va, comme c'est écrit ici, nous convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché, parce que nous ne faisons pas le bien et que nous faisons des erreurs, il va nous convaincre de cela, il va nous dire « Ah, qu'est-ce que tu fais là ?» Ah, oh, oh, tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Je te convainc de péché. De justice, pour nous dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est la justice de Dieu, qu'est-ce qui caractérise le caractère de Jésus, comment cela se transcrit dans notre vie pratique. Il va nous révéler tout cela, il va nous convaincre de tout cela. Et de jugement, parce que tout homme sera présenté à la barre de Dieu. Il nous présente tout cela, il nous convainc de péché. Et Dieu veut que nous nous laissions toucher par cela, que nous répondions à cette influence vivifiante de l'Esprit. Pourquoi est-ce qu'elle est vivifiante? Parce que elle est en train de vous ranimer. Elle vous dit oh oh ouf, oh là là, je fais quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Il vous le révèle, il me le communique. Mais rappelez-vous, il est comme le chevreuil. Attention à ne pas résister. Vous savez, moi, quand je suis dans la nature, que je vois un chevreuil, je m'arrête. Je m'arrête tout de suite parce que je veux le voir et je veux apprécier la beauté de cet animal qui est si furtif et qu'il est devenu si difficile de voir aujourd'hui avec tous ces chasseurs. Tous ces chasseurs qui chassent, qui tuent toute la faune de la nature. Vous comprenez le parallèle? Aujourd'hui, le monde est plein de chasseurs. Nous chassons l'Esprit de Dieu et donc l'Esprit de Dieu ne se voit plus, nous ne le discernons plus, nous ne l'entendons plus et en conséquence de cela, des doctrines de démons prennent place et voient le jour parce qu'on ne voit plus l'Esprit et donc nous disons l'Esprit en fait, il n'est pas ce qu'il nous a été décrit. Il n'est pas cette personne-là qui nous convainc de pécher. C'est Jésus simplement. Ne soyons pas des chasseurs. Lorsque le chevreuil traverse votre paysage, arrêtez-vous et écoutez ce que le Saint-Esprit vous révèle des profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Je continue. Au pécheur repentant qui a faim et soif de justice, à celui qui ne résiste pas, qui s'arrête et qui regarde attentivement pour entendre la voix douce et subtile de Dieu, de l'Esprit de Dieu, à ce pécheur repentant qui a faim et soif de justice, qui veut voir tous les mouvements de cet animal qui est devenu si rare, à ce pécheur-là, le Saint-Esprit révèle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ a dit, « Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et il ajoute, « Le Consolateur vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Est-ce que vous voyez comment tout cela prend de l'ampleur dans l'intelligence du pécheur qui se laisse toucher par cette influence vivifiante? Que veut-il faire? Au pécheur repentant qui a faim et soif de justice, il veut révéler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça qui se passe. Vous êtes là, vous asseyez bien tranquillement, fixe et immobile pour entendre chaque ton de la voix douce et subtile de Dieu. Et si vous restez là, le chevreuil s'approchera de vous. Il s'approchera de vous et vous pourrez distinguer les traits de son museau, la couleur de son poil, ses sabots brillants, sa petite queue recourbée et son pas élégant. Faites silence, soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Quand nous demandons la présence de l'Esprit et que nous ouvrons nos cœurs à l'influence convaincante de l'Esprit, nous recevrons l'Esprit et il nous révélera l'agneau qui ôte le péché du monde. Je continue. Le Saint-Esprit exerce une influence régénératrice et rend effectif le salut opéré par la mort de notre Rédempteur. Et maintenant, écoutez bien. L'Esprit cherche sans cesse à attirer l'attention des hommes sur le grand sacrifice qui a été accompli sur la croix du calvaire. Pour révéler au monde l'amour divin et ouvrir à l'âme convaincue de son péché les trésors de l'Écriture. Est-ce que vous avez relevé cette déclaration primordiale aujourd'hui pour nous? Qu'est-ce qui caractérise l'activité incessante du Saint-Esprit? Que cherche-t-il à faire? Il cherche sans cesse à attirer l'attention des hommes sur le grand sacrifice qui a été accompli sur la croix du calvaire. Il cherche à révéler par cela au monde l'amour divin et à ouvrir à l'âme qui a été convaincue de son péché les trésors de l'Écriture. Est-ce que vous voyez l'importance de cela? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à attirer l'attention des hommes vers Jésus. Jésus, il a dit, quand j'aurai été élevé, quand j'aurai placé ma croix à mi-chemin entre le ciel et la terre, j'attirerai tous les hommes à lui. Et qu'est-ce qui est marqué ici? L'Esprit cherche sans cesse à attirer l'attention des hommes sur le grand sacrifice que Jésus a accompli sur la croix, pour révéler au monde l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il veut faire. C'est ça son rôle, son activité principale. Il désire faire cela, nous parler de Jésus, glorifier Jésus. Il est écrit, il ne parlera point par lui-même. Et vous voyez la raison pour laquelle il existe tant de confusion aujourd'hui sur la nature de la troisième personne de la divinité, c'est que l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles de Dieu. Mais je vous pose la question. L'Esprit, en harmonie avec ce que nous venons de lire, vis-à-vis de la parole de Dieu, de l'inspiration de l'Esprit de prophétie. Ma question, c'est la suivante. L'Esprit désire-t-il parler de lui-même? Réfléchissez attentivement à ce point-là. L'homme animal ne comprend pas ces choses-là. Est-ce que l'Esprit, il veut parler de lui-même? Dans la Bible Martin, ce que nous avions lu, chapitre 16 au verset 13, dans la Bible Martin, on lit « Il ne parlera point de soi-même ». Ce n'est même pas simplement par soi-même, c'est de soi-même. Il n'a pas envie de parler de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a ce caractère de Dieu. Il a le même caractère de Jésus. Et que Jésus a dit, il me glorifiera. Il n'y a pas écrit, il se glorifiera lui-même. Il me glorifiera. Est-ce qu'un chevreuil, c'est comme un lion? Est-ce qu'il va se glorifier? Est-ce qu'il va rugir haut et fort pour nous faire comprendre que nous nous trompons sur la nature de la divinité? Est-ce que c'est ça son office, son rôle, son désir? Il veut attirer notre attention vers Jésus-Christ. Et c'est exactement pour cette raison-là que Dieu a permis aux pionniers de l'Église adventiste de croire pendant de nombreuses années que l'Esprit n'était qu'une influence. C'est parce que l'Esprit, il préfère révéler Jésus que de se glorifier lui-même, que de parler de lui-même. Et le seul moment où il commence à parler de lui-même, c'est où Jésus et la compréhension de la valeur du sacrifice de Jésus est mise en question. C'est à ce moment-là qu'il arrive et qu'il dit « Oh, 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 tu t'arrêtes tout de suite là. Tu t'arrêtes tout de suite là. Il y a un gros problème dans ce que tu crois. » Que Jésus, il n'était pas de toute éternité, qu'il a été créé dans le passé de l'éternité, tu t'arrêtes tout de suite là. Là, je ne suis pas d'accord. Et même là, mon expression de ces choses-là est à des kilomètres de l'expression de la mentalité de l'Esprit de Dieu. Parce que les personnes qui prêchent la parole de Dieu sont encore imparfaites. Mais l'Esprit est parfait et il ne se glorifiera point lui-même. Et pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il possède le même caractère de Jésus qui a dit dans Jean chapitre 5, verset 30. Il possède ce caractère de Jésus par lequel Jésus lui-même disait et s'exprimait dans Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon que j'entends et mon jugement est juste car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y en a un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Que disait Jésus? Est-ce que Jésus se rendait témoignage à lui-même? Non, il a dit, si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Est-ce que vous comprenez la mentalité de Dieu ici? Mais rappelez-vous, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Parce qu'on en juge spirituellement. Et donc ici, Dieu par la parole veut nous faire discerner les choses spirituelles par les réalités spirituelles. N'essayez pas de comprendre la parole par votre propre discernement animal et charnel. Lorsque vous avez un problème, référez-vous à la parole de Dieu, à l'esprit de prophétie. Et ici, Jésus disait quelque chose de significatif. Il disait, il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Et l'apôtre Paul, il disait dans 1 Timothée chapitre 5, je crois, que sur les témoignages de deux ou trois témoins, chaque chose sera établie. Et Jésus, il disait, le Père, il me rend témoignage. Ça ne fait qu'un seul témoin. Quel est l'autre témoin? L'Esprit de Dieu. Sur le témoin. Allons-y brièvement. La seule raison, frères et sœurs, pour laquelle il y a tant de mécompréhension sur ce sujet-là, c'est parce que nous fonctionnons selon l'homme charnel. Il n'y a pas d'autre raison. 1 Timothée chapitre 5, verset 19, ne reçoit aucune accusation contre un ancien si ce n'est de deux ou trois témoins. C'est la règle. C'est la règle. C'est pareil dans Deutéronome. Je crois que c'est Deutéronome chapitre 17 et Deutéronome chapitre 19. C'est la même chose qui nous est communiquée. Et Jésus disait, le Père, il me rend témoignage. Et l'Esprit, comme nous lisons dans 1 Jean, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourquoi c'est comme cela? Parce que ils ne se glorifient pas eux-mêmes, donc ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour leur rendre témoignage. N'essayez pas d'aller plus loin, n'essayez pas d'être plus sage que l'Écriture, sage au-delà de ce qui est écrit. Non, vous prenez ce qui est écrit et puis c'est tout, vous vous arrêtez là et vous vous taisez. Vous jetez un voile sur votre face et vous vous prosternez devant la voix douce et subtile de Dieu. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. La sagesse de l'homme n'est que folie aux yeux de Dieu. Mais il a décidé de nous sauver par la folie de la prédication. Et donc Jésus, il relayait seulement le témoignage que le Père rendait de lui. Et c'est pour ça qu'il disait, mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Et pourquoi est-ce que Jésus, il répétait le témoignage que le Père lui avait témoigné de lui? C'est très important que nous comprenions cela pour que nous ne prenions pas, ne relevions pas un esprit charnel lorsque nous lisons des déclarations du Fils de Dieu. Il disait au verset 34 de Jean chapitre 5, « Pour moi, je ne reçois point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. » C'est pour cela que Jésus il parle de lui-même, parce que ce qu'il a fait, cela révèle le renoncement dans lequel il s'est engagé pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous révéler le caractère du Père, que Dieu est miséricordieux et compatissant. Voilà ce dont l'Esprit, il veut parler. Il veut parler de la croix. Il veut parler de Jésus. Il veut glorifier Jésus. Et puissions-nous avoir cette même attitude, cette même pensée qui était en Jésus-Christ. Il avait en lui l'Esprit de Dieu. Et cet esprit qu'il avait en lui, qu'il a reçu, vous savez, quand il est sorti du baptême, l'esprit est descendu sur lui tel une colombe, et il avait cette même mentalité de l'esprit. Mais il parlait de lui-même pour que nous soyons sauvés. C'est pour ça que Jésus, il parle de lui-même, parce que quand il parle de lui-même, il parle du Père, parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui. Vous voyez comment toutes ces choses sont imbriquées les unes dans les autres pour nous fortifier dans notre compréhension de l'amour mourant de Dieu. L'amour mourant de Dieu, il meurt à lui-même pour nous exprimer et opérer pour nous son amour pour nous. Allons dans le passage de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, versets 16 à 20. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Et donc le monde ne peut pas recevoir l'Esprit, le Consolateur, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Donc je vous pose la question, allons-nous nous attendre à voir de notre discernement charnel l'Esprit de Dieu pour pouvoir le recevoir? Jésus, il disait, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Jésus, il était avec eux. Et Jésus avait en lui l'Esprit. Et donc l'Esprit était avec eux à travers Jésus. Mais l'Esprit n'était pas encore en eux. Quand je lis cette parole, c'est ce qui est écrit. Je n'ai rien rajouté. L'Esprit était avec eux. Cet autre consolateur qui nous serait envoyé était avec eux lorsque Jésus était avec eux. Mais il leur disait qu'il serait en eux lorsqu'il viendrait et qu'il leur serait envoyé. Et il disait, et Jésus disait, je ne vous laisserai point orphelin, mais je viendrai à vous. Il était en train d'annoncer ce qui se passerait lorsque le Saint-Esprit leur serait donné. Il disait, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous me verrez par le Saint-Esprit. Et j'aimerais pour cela lire une déclaration encore une fois de l'Esprit de prophétie dans Jésus-Christ à la page 672 au paragraphe 2 et 3. Directement en rapport avec ce passage que nous venons de lire, il est écrit « L'Esprit avait déjà été dans le monde auparavant. Dès les premiers commencements de l'œuvre de la rédemption, il avait agi sur les cœurs. Mais aussi longtemps que Christ vécut sur la terre, les disciples ne sentirent pas la nécessité d'un autre soutien. C'est seulement après qu'ils furent privés de sa présence, la présence de Jésus, qu'ils éprouvèrent leur besoin de l'Esprit, et alors celui-ci leur fut donné. » Le Saint-Esprit est le représentant de Christ, mais dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d'un corps humain, Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc avantageux qu'il s'en allât au Père et leur envoya l'Esprit pour lui succéder sur la terre. Dès lors, personne n'aurait aucun avantage découlant de sa présence dans un endroit plutôt que dans un autre, ou de son contact personnel avec Christ. Grâce à l'Esprit, le Sauveur serait accessible à tous, et il serait de ce fait plus près de ses disciples que s'il n'était pas monté au ciel. Est-ce que vous avez relevé cette magnifique déclaration, ce magnifique développement ici de l'inspiration? Le Saint-Esprit est le représentant de Christ. Dites-moi, est-ce que vous pouvez dire que la gravité est le représentant de Dieu? Pourtant, la gravité est une loi de Dieu. C'est une puissance établie par Dieu. Mais pouvez-vous dire que la gravité est un représentant de Dieu? Ça serait incohérent avec la langue française, avec toute autre langue d'ailleurs. Mais ici, nous lisons que le Saint-Esprit est le représentant de Christ, à la différence toutefois qu'il est dépouillé de la personnalité humaine. Il n'est pas dépouillé de personnalité, il est dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Il n'est pas embarrassé d'un corps humain, comme l'était Christ lorsqu'il était sur la terre, et comme l'est Christ aujourd'hui même au ciel. Il y a marqué « embarrassé d'un corps humain », Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc avantageux qu'il s'en alla au Père et leur envoya l'Esprit pour lui succéder sur la terre. C'est difficile d'être plus clair. C'est pour cela, frères et sœurs, que moi, j'ai décidé de ne pas me plonger dans les débats sur cette question, mais de simplement comme l'esprit de prophétie nous l'exhorte à le faire, de présenter la vérité sur la réalité de l'Esprit de Dieu et de sa mission. Nous passons à côté du vrai sujet lorsque nous nous bornons à nous concentrer sur la nature de l'Esprit. Ce n'est pas ça vraiment qui importe. Ce qui est important, c'est de comprendre là où nous sommes dans l'erreur pour que nous soyons guidés dans la vérité. Et rappelez-vous, c'est l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Et donc, si je me fabrique dans ma propre intelligence une autre réalité de l'Esprit, qui n'est pas la réalité de l'Esprit de la Bible, qu'est-ce qui va se passer? Je me placerai sous le joug des fausses doctrines. Comme nous l'avions lu dans notre étude précédente, des doctrines de démons. Et si je me place sous l'égide de l'instruction des démons, qui va contrôler et orienter et diriger ma vie spirituelle? C'est pour ça que j'ai abordé ce sujet, parce que ce n'est pas simplement, je n'ai pas vraiment envie de débattre d'un sujet ou d'un autre. Mais j'ai envie d'attirer votre attention vers le fait que si nous chérissons, nous nourrissons une erreur, nous nous placerons dans une position où Satan pourra se jouer de nous. Il aura de quoi mettre le pied en notre cœur. Il aura une prise, un endroit où il puisse s'accrocher, et il va agrandir cet endroit. Et il va abattre les murailles. Et il va détruire la forteresse de l'âme. Nous avons besoin d'être très vigilants que nous ne soyons point détournés de la foi par les erreurs spécieuses de l'ennemi. Nous sommes donc exhortés dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, n'éteignez point l'esprit. L'esprit, il est la flamme intelligente de la présence personnelle de Jésus, et nous devons accepter la vérité à laquelle il rend témoignage. Car, comme Jésus l'a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que va faire la vérité? Est-ce que la vérité est importante? Jésus a dit que si nous sommes les disciples de Jésus et que nous persévérons dans la parole, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. L'Esprit nous conduira dans la vérité et il nous libérera par la vérité. Et donc si nous refusons la vérité et que nous nourrissons une erreur, nous serons maintenus dans l'esclavage. C'est le danger sur ce sujet. C'est le danger par rapport à nos réactions aux choses profondes de Dieu que Dieu veut nous révéler. L'esprit, ce n'est que un aspect de tout cela. Mais nous avons besoin d'être très vigilants vis-à-vis de notre réponse à la flamme de l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez quand, à la Pentecôte, quand les apôtres et tous les fidèles, ils étaient rassemblés dans la chambre haute, ils étaient d'un commun accord ensemble, ils s'étaient confessés les uns les autres leurs erreurs. Ils s'étaient mis en pleine harmonie les uns avec les autres et Dieu avait déversé sur eux l'Esprit et cela s'était révélé comme des langues de feu. L'esprit est un feu parce qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et donc nous avons besoin de nous soumettre à cette influence vivifiante et régénératrice de l'esprit qui, comme nous l'avons vu, veut attirer notre attention sur le grand sacrifice qu'a accompli Jésus sur la croix du calvaire et qui veut nous révéler l'amour de Dieu et nous ouvrir à notre âme convaincue de péché les trésors de l'Écriture. Il veut faire tout cela et puissions-nous ne pas éteindre l'esprit. Et donc à mesure que nous nous abandonnons à l'amour de Dieu et à ce Jésus qui nous attire à lui, nous pourrons faire cette fameuse expérience qui est exprimée dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 26 et versets 14 à 17. Pour conclure. Et l'apôtre nous dit, et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Verset 27, « Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit qui prie selon Dieu pour les saints. » Vous voyez comment cela se rejoint à ce que nous avions, à ce par quoi nous avions commencé. Ils sondent les profondeurs de Dieu pour nous révéler les choses de Dieu. Mais maintenant que nous avons un amour pour Jésus, nous voulons répondre à Jésus qui nous attire à lui et qui nous révèle le sacrifice qu'il fait pour nous, qu'il a fait pour nous, et ce qu'il souffre et qu'il a souffert pour nous. L'Esprit nous soulage dans nos faiblesses. Il est notre autre consolateur, vous voyez. Il nous soulage dans nos faiblesses. Pas parce qu'il est indépendant de celui qui est notre sauveur, mais parce que il glorifie Jésus à nos yeux. Il prend de ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. Et par cela, il soulage. Il nous soulage dans nos faiblesses. Il nous parle de Jésus. Il nous dit, tu te souviens de ce qu'il a fait pour toi? Tu te souviens de ce qu'il a souffert pour toi? Tu te souviens qu'il est dans le jardin de Gethsémané avec toi? Tu te souviens de ce qui est révélé de lui dans le psaume? Tu te souviens? Oh, comme il t'aime, ton Dieu! Tu te souviens de lui? Tu te souviens de moi? Tu te souviens de lui? Il soulage notre esprit dans nos faiblesses. Et quand nous ne savons pas quoi demander à Dieu, lui-même l'Esprit l'intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Il anime nos soupirs pour désirer exprimer nos cœurs repentants à Jésus, à Dieu notre Père, et il nous unit l'homme fini au Dieu infini. Jésus nous attire à lui par la croix qu'il a placée à mi-chemin entre la terre et le ciel, et l'Esprit est l'agent régénérateur, l'influence régénératrice qui accomplit cette œuvre-là. C'est son rôle. C'est le rôle qu'il a. Il parle de Jésus. Rappelez-vous de cela. Verset 14, verset 13 même. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous réfléchissez selon la chair, qui ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu, les profondeurs de Dieu que Dieu veut vous révéler et vous communiquer, vous mourrez en faisant cela. Vous mourrez si vous continuez à dire que l'Esprit n'est qu'une influence. Vous mourrez dans cette mentalité-là. L'Esprit ne pourra pas vous soulager dans vos faiblesses. Et donc, si vous vivez selon la chair, mes frères et sœurs, vous mourrez. Il n'y aura rien pour vous. L'apôtre nous dit, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Si vous faites mourir cette chair qui dit, mais c'est n'importe quoi tout ça, si vous la faites mourir, vous lui dire, mais tu te tais, tu ne comprends rien. Moi, j'accepte ce que Jésus dit dans la parole. J'accepte la parole dans le livre entier, comme disait Ellen White. J'accepte la parole telle que c'est écrite, telle qu'elle est. La parole inspirée de Dieu. Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Vous vivrez en faisant cela, en acceptant les choses qui sont pour l'homme naturel comme une folie, en les acceptant comme on en juge spirituellement. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Oh! Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Voilà ce que cela veut dire. Il vient à nous. Et l'Esprit, lorsque nous nous soumettons à son influence, qu'est-ce qu'il fait? Verset 15, car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Père, vous souvenez, l'Esprit, il intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Nous n'avons rien à dire, nous crions dans notre cœur ardent de repentance et d'amour. Abba, mon Père. Verset 16, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous faisons tout cela, nous sommes enfants de Dieu, il rend témoignage à notre esprit. De la même manière que le Père, il rendait témoignage au Fils, et que l'Esprit, il rendait témoignage au Fils, lorsque l'Esprit, la colombe, est tombée, est venu descendre sur le Fils. Il a entendu la voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon plaisir. Vous voyez comment tout cela se rejoint? Le Père et le Saint-Esprit ont rendu témoignage au Fils. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'éteignez point l'Esprit. N'éteignez point l'Esprit. Verset 17. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Voilà ce merveilleux message que le Seigneur nous donne. Que dans cette dépendance à Dieu, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que puisque nous renions les œuvres de la chair, puisque nous faisons mourir les œuvres du corps, nous vivons. Nous voyons que Jésus est dans le Père et que nous sommes en lui. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit, par cet esprit d'adoption, que nous sommes enfants de Dieu. Et que si nous sommes enfants de Dieu, nous serons aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Et donc la continuité de cette expérience dans laquelle l'Esprit nous appelle, ce sera de souffrir avec Jésus. C'est la continuité telle que la parole nous la révèle. Nous venons à Dieu en acceptant, en recevant les choses de Dieu que Dieu nous communique et par lesquelles il nous parle. Et comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. » Nous avons la pensée de Christ et c'est cela qui va nous pousser à souffrir avec lui parce que nous avons ce témoignage à l'intérieur de nous rendu par l'Esprit de Dieu que nous sommes les enfants
de Dieu. Que le Seigneur soit loué pour cette magnifique parole qu'il nous a réservée à nous qui vivons en ces derniers jours. Puisse Dieu accomplir ses merveilleuses promesses dans nos cœurs à mesure que nous nous soumettons à l'activité régénératrice de son esprit qui veut nous attirer vers Jésus, qui a placé, mis sa croix à mi-chemin entre la terre et le ciel. Puisse le Seigneur nous bénir à cet effet, c'est ma prière. Amen.